Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés ou rencontrés. Je vous invite à nous arrêter ce matin sur un thème qu'on n'a pas l'habitude de prendre, sur une question d'avertissement. La Bible nous donne à maintes reprises des avertissements. Il y en a tout plein dans l'Ancien Testament déjà. Jésus en a donné à de multiples reprises. Et les apôtres en ont aussi beaucoup partagé dans les épîtres. Les avertissements ont différents sujets, mais ils sont aussi adressés à des groupes de personnes différents. J'ai à cœur ce matin que nous nous arrêtions sur des avertissements particuliers que Paul donne à Timothée. Cela se trouve dans 1 Timothée au chapitre 4. Rassurez-vous, je ne vois actuellement pas dans l'Église des sujets qui nécessiteraient un avertissement particulier ou précis, mais c'est important de comprendre de quel danger les apôtres avertissaient les premiers chrétiens. La compréhension de ces dangers nous aide aussi à avoir une relation personnelle équilibrée. Équilibrée et juste avec notre Dieu. Comme le dit le vieil adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Et vous verrez, prévenir est aussi utile à une relation personnelle saine et profonde avec notre Dieu. Alors, je vous invite à nous arrêter déjà sur quelle était justement la relation entre Paul et Timothée. La conversion de Timothée remonte très probablement au premier voyage de Paul. Vous savez que Paul a fait 3 voyages. Et donc la conversion de Timothée remonte au premier voyage de Paul, lorsqu'il annonça l'évangile à Lystre. Voilà. Voilà un petit peu le premier voyage de Paul. Voilà, donc il est parti d'Antioche, il a fait une première boucle, clac, et puis il est arrivé à Lystre. Et c'est là vraisemblablement que Timothée s'est converti. Une amitié. Timothée a ensuite suivi l'apôtre Paul pendant son deuxième voyage, après son retour à Lystre. Voilà, si tu peux juste mettre la deuxième, voilà. Donc là, on voit Paul qui est de nouveau parti d'Antioche, qui est repassé à Lystre. Et là, Timothée a suivi Paul dans son voyage, l'a accompagné dans son ministère, dans sa prédication, dans le suivi des églises naissantes. Et dans cet accompagnement que Paul faisait. Une amitié très forte unissait Paul et Timothée, au point que Paul appelait Timothée son enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il appelait aussi son véritable enfant dans la foi. Et tout comme Paul, dès son enfance, Timothée avait été instruit dans la connaissance exacte des saintes Écritures, des saintes lettres. C'est-à-dire de l'Ancien Testament, par sa mère, la mère de Paul, de Timothée, la mère de Timothée et la grand-mère de Timothée, qui était juive et qui était restée attachée à la religion de leur peuple. Paul avait aussi une très grande confiance en Timothée. Les deux épîtres qui lui est écrit, dans les deux épîtres qui lui écrit, Paul partage avec Timothée de façon très intime et de façon personnelle aussi. Il le conseille, il lui donne les armes dont il aura besoin dans son ministère d'évêque. Timothée sera effectivement évêque à Éphèse. Alors voilà, on lit dans 1 Timothée au chapitre 4, les 5 premiers versets. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Il est direct, Paul. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Avant de nous arrêter plus en détail sur la compréhension de ce texte, il y a deux points que je vous propose de préciser. Deux points qui pourraient peut-être être mal compris. Tout d'abord, il ne faut pas confondre ce dont il est question dans ce passage avec l'apostasie générale d'avant le retour de Christ. Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça, l'apostasie générale? Il est à plusieurs reprises parlé d'apostasie dans la Bible. Alors l'apostasie, ça signifie l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. Alors ça, c'est une définition laïque, c'est intéressant. Il est généralement fait mention de l'abandon de la foi pour l'humanité de manière générale, c'est-à-dire qu'il est annoncé que la foi chrétienne diminuera dans les derniers temps avant le retour de Christ. C'est notamment ce que l'on voit dans 2 Pierre au chapitre 3, les versets 3 à 5, « Sachant avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. » Il est ici question, donc dans 2 Pierre au chapitre 3, du monde qui abandonne la foi de façon générale. Par contre, en 1 Timothée 4, il nous est parlé d'un abandon de la foi, non pas au niveau du monde, mais dans et autour de l'Église. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce passage de 1 Timothée 4 nous concerne, il nous concerne directement, nous en tant qu'Église. C'est un avertissement qui est pour nous et pour les églises des derniers temps. Un deuxième élément qu'il faut préciser, et qui pourrait aussi prêter à confusion dans ce passage, est le fait que l'on pourrait comprendre par abandon de la foi le rejet de la foi pour quelqu'un qui est au bénéfice du salut en Jésus-Christ. Bon nombre de commentateurs comprennent que dans ce passage, il est question de l'abandon du salut qui se produit pendant le processus de la conversion, avant l'acte d'acceptation personnelle du salut. On a vu en étude biblique, mais ma foi, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, on a vu en étude biblique que l'acte de salut intervient après une certaine révélation donnée par Dieu du plan du salut. C'est à ce moment de la compréhension du salut que certains abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. L'acceptation du salut, c'est l'acte volontaire de l'homme qui, ayant compris son éloignement d'avec Dieu à cause de sa nature de pécheur, reçoit personnellement le salut accompli par la mort de Jésus-Christ, pour lui en particulier. Il comprend et accepte que Jésus-Christ ait porté sa propre condamnation en se donnant lui-même en sacrifice à sa place. Une telle compréhension du salut entraîne une immense reconnaissance envers Dieu. C'est la compréhension que le salut est la main de Dieu tendue vers l'homme. C'est Dieu qui tend sa main vers l'homme, ce n'est pas l'homme qui s'élève vers Dieu. L'homme saisit la main de Dieu et il n'accomplit pas d'acte qui lui permette, par ses efforts personnels, un quelconque mérite. Le salut est entièrement accompli par Jésus-Christ. Il est la manifestation de son amour pour l'humanité. La seule chose que l'homme fait, c'est accepter cet acte d'amour accompli par Dieu lui-même. Et son amour est immense. Le salut est l'œuvre de Dieu. Lisons ce que Jésus disait lorsqu'il nous comparait à des brebis. C'est en Jean 10. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Voilà concernant ces deux petites mises au point. Je vous invite maintenant, pour bien comprendre ce texte, a précisé encore deux autres points, ou plutôt certains termes utilisés, qui sont peut-être pas forcément évidents à comprendre comme ça de premier abord. Tout d'abord, à la question des derniers temps. Il nous est précisé que cet avertissement concerne les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Mais les derniers temps, cela commence à quel moment et cela se terminera par quels événements? Bonne question. Concernant cette période des derniers temps, la plupart des commentateurs s'accordent pour dire qu'elle commence après la première venue de Jésus-Christ sur la terre et qu'elle se terminera à son retour, à sa deuxième venue. Nous sommes donc bien dans ces derniers temps. Et je pense même que nous sommes vers la fin de cette période des derniers temps. Ce passage de 1 Timothée 4 s'applique bien à ce que nous vivons dans notre temps, aujourd'hui, en 2016. Encore un deuxième point qu'il faut, à mon avis, préciser. Il est parlé de doctrine de démons. Le qualificatif de doctrine de démons est extrêmement fort. Ce n'est pas souvent quand même qu'il en est question. Rien n'est plus opposé à Dieu que Satan et les démons. Il est donc ici question de doctrine de démons ou pensée de démons qui sont donc complètement opposées à la pensée de Dieu. Mais nous le verrons plus encore en détail tout à l'heure. Il y a une stratégie commune entre ces doctrines de démons et un des modes opératoires privilégiés par Satan, le mensonge et la tromperie. Voyons un petit peu quels sont les fondements justement de ces doctrines qui sont opposées à l'Évangile. Tout d'abord, le mensonge. Un des fondements de ces doctrines opposées à l'Évangile est la question du mensonge. C'est par le mensonge que Satan a séduit Adam et Ève. Un mensonge perfide, parce que progressif, mais aussi soigneusement prémédité et complètement hypocrite de la part de Satan. Tout d'abord, une mise en cause des paroles de Dieu, ou une remise en cause des paroles de Dieu. Genèse 3, 1, Dieu a-t-il vraiment dit ? Ça commence, tac. Ensuite, lorsque le doute arrive, voilà le mensonge dans toute sa splendeur. Vous ne mourrez absolument pas. Mensonge qui s'accompagne par l'accusation que Dieu est manipulateur. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous voyez la progression là dans le mensonge. De la même façon que Satan a utilisé le mensonge pour faire entrer le péché dans l'humanité, c'est par l'hypocrisie et le mensonge qu'il cherche aujourd'hui à empêcher les personnes d'accepter le salut. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à ces esprits complètement opposés au projet de Dieu pour l'homme. Un autre point après le mensonge, le légalisme. Après avoir utilisé le mensonge, l'ennemi vient avec les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres du légalisme. Et ce légalisme-là, en plus, il est basé lui aussi sur un mensonge. Ne pas se marier, ne pas manger. Alors que Dieu avait dit à Noé et à ses fils, dans Genèse 9, Dieu leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe vivante. Le légalisme et l'hypocrisie vont ensemble. Il y a un lien entre les deux. Pour la simple et bonne raison que le légalisme entraîne la condamnation. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, Romains 3, verset 20, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur les bases des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire que la loi n'a pas été donnée pour qu'elle soit accomplie par les hommes, Elle a été donnée pour mettre en évidence la présence du péché dans l'homme. Le seul qui a accompli la loi, c'est Christ. La loi condamne le pécheur et met en évidence la justice de Christ, qui est le seul à être sans péché. En interdisant de se marier, Satan s'attaque à ce que Dieu a institué, le mariage. Ceci est typique parce que Satan s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Et là, c'est intéressant. Soit en permettant ce que Dieu défend, soit en permettant ce que Dieu défend, soit en défendant ce que Dieu a ordonné. Vous voyez le truc ? Satan, soit il tend un piège en nous incitant, en permettant, disons, ce que Dieu défend, soit il tend un autre piège en défendant ce que Dieu a ordonné. Alors, ces doctrines sont vraiment dangereuses parce qu'elles font en plus écho à nos désirs humains. Désirs qui viennent de notre être pécheur et opposé à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul appelle notre être charnel. Elles font écho à notre être charnel et c'est ça qui les rend encore plus dangereuses. Alors voilà, on a assez passé de temps à parler de choses négatives. Moi, je vous invite maintenant à poursuivre notre lecture de la suite du chapitre 4 de 1 Timothée et voir un petit peu quels sont les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée. 1 Timothée 4, à partir du verset 6. « En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. » Bon. « Exerce-toi plutôt à la piété. » Ah ouais, il était direct, Paul. Hein? « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses. » Oui, il est quand même utile, hein? Tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Alors il est ici question, entre autres, de la piété. Alors, qu'est-ce que c'est que la piété ? Lorsque j'étais ado, puis ensuite jeune chrétien, la piété avait pour moi une connotation fortement négative. La piété représentait pour moi le fait de devoir faire des choses par obligation. Je la comprenais comme le fait de devoir faire certaines choses pour mériter en plus une récompense. C'était la notion du mérite. Mais rassurez-vous, ma compréhension de la piété a changé depuis. Alors j'ai recherché sur Internet quelle était la définition de la piété, et puis voilà ce que j'ai trouvé. Et là aussi, c'est une définition laïque que je trouve intéressante. Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. La piété, ce sont donc des actes qui ne sont pas méritoires, c'est-à-dire qui ne nous font mériter rien du tout, mais qui nous permettent de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Alors ça, c'est bien théorique. Mais en pratique, ce matin, lorsqu'on a participé à la louange, nous avons fait un acte de piété. Tout simplement parce qu'on a rendu à Dieu la gloire qui lui est due. Lorsque nous avons prié Dieu, nous lui rendons la gloire qui lui est due aussi. Là aussi, nous faisons acte de piété. Donc, la piété, ce n'est pas quelque chose qui est dans les nuages, c'est quelque chose qu'on a à vivre tous les jours et finalement, qui est relativement simple. Alors, ce matin, je vous recommande de faire acte de piété envers notre Dieu. Mais attention, je ne parle pas là de la marche vers Saint-Jacques de Compostelle ou de parcourir des chemins de croix. Ce sont des soi-disant bonnes œuvres, évidemment, mais elles ne font qu'éloigner celui qui les accomplit de Dieu. Certains croient à tort que grâce à cela, ils participent à l'acte du salut. Non, 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 non. La piété, c'est rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Alors, poursuivons notre lecture. Oups. Le verset 11. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Paul recommande à Timothée d'être un modèle pour les croyants. Ce n'est pas facile d'être un modèle. Le modèle, c'est celui vers qui les yeux des autres sont fixés. Le modèle, c'est la référence. Timothée devait être un modèle. Et un modèle, en plus, vous avez vu, sous différents aspects, puis la liste est longue. Tout d'abord, en maîtrisant sa langue, ses paroles. On ne va pas développer parce que le temps serait trop court. Ensuite, un modèle par sa conduite qui devait être irréprochable. Il devait avoir aussi de l'amour. Vous savez, l'amour qui se donne, l'amour qui ne soupçonne pas. Il est aussi question de foi ou de fidélité. C'est-à-dire que Timothée devait faire preuve de constance. Il ne devait pas être une girouette qui change d'avis selon l'orientation du vent ou les courants de pensée. Non, Timothée devait être un modèle stable. Enfin, Timothée devait être un modèle de pureté. Et la pureté dont il est question ici, c'est la pureté dans le sens de pureté de ses mœurs, pureté de sa vie affective, pureté dans sa vie sexuelle aussi. C'est intéressant ce dernier point parce qu'il nous amène aussi à la notion d'équilibre. Vous vous rappelez le deuxième piège à éviter ? Le légalisme doublé du mensonge de l'interdiction de se marier. Dans la question du mariage et plus globalement des relations entre les hommes et les femmes, Dieu a un plan clair, un plan basé sur une vie sexuelle et affective équilibrée. Non à l'interdiction du mariage. Le mariage est l'ordre divin et le cadre dans lequel vivre sa sexualité, mais non aussi au dérèglement sexuel. L'équilibre, c'est ça qui est important. Et l'équilibre, c'est souvent ce qui est le plus difficile à maintenir. Mais Paul recommande aussi à Timothée, au verset 13, « Applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. » C'est par la lecture de la Bible que nous connaissons la volonté de Dieu, que cette volonté nous imprègne. Et lorsque nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, les stratégies de Satan n'ont plus de prise. Lorsque nous nous laissons imprégner par la parole de Dieu, par son esprit, Dieu par son esprit remplit toute la place de notre âme. Nous sommes comme blindés par sa présence en nous. Soyons sensibles à l'esprit de Dieu, à l'esprit que Dieu a mis en nous. Laissons-lui toute la place. Vous savez, si l'Esprit de Dieu remplit toute la place, il n'y a plus de place pour autre chose. Et oui, c'est tout simple, finalement. Alors, en conclusion, nous vivons les derniers temps. La fin des derniers temps. Notre monde est troublé. Il le sera toujours plus. Mais Jésus nous encourage. Jésus disait à ses disciples, en Jean 16, quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Ça, c'est les disciples qui ne le verraient plus pendant un temps. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il disait encore un petit peu plus loin dans le chapitre 16. Laissons-nous travailler par le Saint-Esprit. Laissons-lui toute la place. C'est la meilleure des protections contre les ruses de Satan. C'est le meilleur moyen pour être transformé et renouvelé. Et là, on va relire un verset que Rebecca nous a lu tout à l'heure. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut faire confiance au Saint-Esprit pour comprendre la Bible et donc comprendre la volonté de Dieu pour nous, mais aussi pour discerner et déjouer les manœuvres de Satan. Lorsque le Saint-Esprit a toute la place dans notre vie, il a toute liberté pour agir et nous pouvons faire nôtre ce verset de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement. Réfléchissez à ce qui vient d'être dit. Si après vous voulez mes notes, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est important. C'est vrai qu'on vit des temps qui sont pas forcément évidents. Mais il y a dans la Bible, il y a en Dieu, des réponses qui sont véritables, de vraies réponses. Je vous invite à un temps de recueillement et je terminerai par la prière. Oui Seigneur, merci parce que ton amour est immense. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Merci parce que tu as accompli le salut, mais bien plus. Merci parce que tu désires nous accompagner chaque jour. Merci parce que tu as vaincu le mal. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Merci parce que tu désires que nous soyons nous aussi dans la victoire en toi. Oui Seigneur, aide-nous à te laisser toute la place dans notre vie, à laisser toute la place à ton esprit, à cet esprit que tu as mis en nous, pour qu'il nous conduise, nous purifie, nous fasse grandir en toi. Oui Seigneur, que ces vérités de ta parole puissent nous pénétrer. Aide-nous à faire pénétrer ta parole dans notre vie, dans notre cœur, à nous en imprégner, afin que tu sois glorifié par notre vie, par ton action en nous. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Nous allons maintenant partager la scène. Et c'est vrai que lorsque nous partageons la scène, nous célébrons l'alliance, la nouvelle alliance que Jésus-Christ a conclue avec nous. On va lire un verset dans 1 Corinthiens 6. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Dans cette alliance, Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix, au prix de sa vie. Partager ce repas ensemble ce matin, c'est proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous personnellement. Et c'est aussi proclamer que notre vie est changée, transformée, et qu'elle a pour but maintenant de rendre gloire à Dieu. C'est cela aussi la piété. Partager la scène dans le recueillement, l'engagement personnel, la proclamation que nous lui appartenons. Alors si nous ne sommes pas au bénéfice de cette alliance, laissons simplement passer le pain, le jus de raisin à notre voisin, mais réfléchissons aussi au sens de notre vie et à la finalité de notre vie. Voilà, je vais demander à Pierre de prier pour ce pain qui symbolise le corps de Christ qui a été brisé pour nous.
Merci Seigneur pour ton corps brisé, pour toutes ces souffrances que tu as endurées pour nous. Merci de nous rendre dignes, Seigneur, de pouvoir vivre en toi. Amen.
Voilà, c'est maintenant Matthieu qui va prier pour ce jus de raisin qui symbolise le sang de Christ qui a coulé pour nous.
Seigneur, quel honneur d'avoir été racheté par ton sang. Et merci parce que par ce sang qui a coulé, tu nous vois sans péché. Merci parce que c'est une preuve d'amour que personne ne nous a donnée de cette manière-là. Et je veux vraiment te dire jusqu'à la fin de ma vie, merci pour ça. Et merci parce que c'est un privilège de pouvoir marcher dans tes voies. Et je te demande encore de nous bénir chacun, Seigneur, ce matin, dans la prise de ce repas qui vraiment voilà, symbolise tout ce que tu as fait pour nous. Amen.
Donc demain, le Femme Club se retrouve non pas à 14h, mais à 18h, chez Rebecca et Emmanuel, pour la clôture de l'année. Mardi, les jeunes adultes se retrouvent chez Fred et Nancy à Perron. Sinon, dimanche prochain, donc en fin de journée, à 20h, il y aura la comédie musicale du groupe de jeunes de Saint-Genis. Et je crois que je vais laisser la place à quelques jeunes pour dire deux mots.
Voilà. Alors nous, il y a quelques semaines, on est allé à Saint-Genis voir la comédie musicale qu'ils ont préparée, le groupe de jeunes. C'est pour... ils vont partir en mission humanitaire et donc du coup, ils font des comédies musicales. L'entrée est totalement gratuite. Et par contre, on peut donner une petite participation là-bas. On y est tous allés, c'était bien.
Oui.
Voilà. Du coup, on a été fortement encouragés dans l'église à les inviter à venir. Et donc, on se disait que voilà, c'est un dimanche soir. La France va jouer à 15h, vous serez libre. Donc, c'est tout bon. Et donc, du coup, voilà, on voulait vraiment tous vous encourager à venir. Ça nous a vraiment tous touchés. Et donc, voilà.
Voilà, donc le groupe de jeunes de Saint-Genis a un projet humanitaire. D'un camp en Roumanie. Sinon, ensuite, le mardi 28, donc dans 10 jours, il y aura l'étude biblique des aînés, ici à 14h ou 14h30, je ne sais plus. On vous le redira dimanche prochain. Sinon, le dimanche 3 juillet, donc il n'y aura pas de culte ici. Culte à la Lècherolle, puis la journée aussi comprise avec, un Pâques, culte et pique-nique et journée à la Lècherolle. C'est déjà dans deux semaines. Hein. Le dimanche 10 juillet, Annelise fêtera son anniversaire. 80 ans, waouh! Moi, je n'y suis pas encore. Hein. Il y aura donc un apéritif après le culte, puis elle a invité du monde et tout. Ce sera un culte un petit peu particulier. Ce sera aussi le culte juste avant le club d'été. Donc voilà, on peut prier déjà pour ce culte qui sera un temps de témoignage aussi, aussi très fort. Le club d'été approche, il faut déjà penser à l'apéro qui va clôturer la semaine, donc le vendredi 15 juillet. Pour cela, et comme d'habitude, on compte vraiment sur la participation de chacun pour amener des mises en bouche, salées, sucrées. Alors on vous propose de vous inscrire déjà dès maintenant sur le tableau qui a été mis au fond de la salle. Alors c'est un grand tableau, hein, donc il faut beaucoup de noms dessus. Si vous avez des questions ou si vous êtes disponible pour aider ce jour-là, merci de vous adresser à Lydie. Ensuite, des nouvelles de Julian Soré. Donc Noémie et Julianne sont rentrées à la maison mardi soir. Julianne va mieux. Tous les résultats des analyses sont bons. Il s'agissait en fait d'un virus respiratoire qui lui donnait de la fièvre qui ne voulait pas descendre. Noémie et Julianne sont encore malgré tout bien fatiguées, contents d'être à la maison. Suite au traitement, par contre, Julianne a beaucoup de coliques. Donc ce n'est pas encore tout à fait ça. Peu de moments de répit encore, mais ces coliques devraient diminuer progressivement au fil des jours. Emmanuel et Noémie remercient vraiment chacun pour les pensées, pour les prières. Notre Seigneur est grand, ils nous ont dit, et a répondu à nos prières en nous rendant un Julian en bonne santé. Des nouvelles aussi de Roland. Alors Roland est sorti de l'hôpital mercredi en fin de journée. Donc mercredi, il a passé une coronarographie à Annecy. Donc cette coronarographie n'a rien révélé de suspect. Roland suit maintenant un traitement et doit surtout se reposer. C'est vrai qu'il était très fatigué. Le traitement qu'il suit le casse un petit peu parce que ça baisse la tension. Et donc, voilà, dès qu'il se lève, qu'il marche un petit peu, pouf, il est fatigué, il doit se reposer, se reprendre. Il aura ensuite un suivi avec un cardiologue sur Annemasse. Voilà, c'est le temps que les choses se mettent en place. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que les analyses ont révélé un problème qui n'était pas en lien avec le malaise qu'il a eu au départ. Donc, en fait, il a eu un malaise, il a eu beaucoup de douleurs. Et suite à cela, les médecins ont trouvé quelque chose qu'ils ignoraient, pour lequel il va pouvoir être suivi et traité, et c'est ça qui est important aussi. Roland est très reconnaissant du soutien qu'il a reçu par les prières, les visites, les messages d'encouragement. Il remercie vraiment chacun chaleureusement. Merci de continuer de prier pour lui, pour son rétablissement complet, et puis que Dieu le garde aussi pour la suite dans sa santé. Le club d'été, qui aura donc bien lieu du 11 au 15 juillet. Il y a encore quelques flyers à disposition. N'hésitez pas, je pense que c'est encore ouvert hein, pour les inscriptions. Ça ne va pas l'être encore trop longtemps, donc n'hésitez pas à distribuer ces flyers, ces invitations autour de vous. Une autre information toute pratique. Jean-Daniel et Pascaline et leur famille arrivent vendredi prochain. Raymond va aller les chercher donc à l'aéroport à Lyon, mais seulement ils sont 5, avec Raymond ça fait 6, plus les bagages, donc Raymond aurait besoin, si quelqu'un pouvait lui prêter une grande voiture, un 7 places, voilà, sinon c'est pas possible dans une voiture normale de mettre 6 personnes plus les bagages, donc si quelqu'un est disposé de prêter un grand véhicule, ben, contactez directement Raymond. Cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens des Comores. Voilà, donc le dernier CD de Louise qui est sorti est à la librairie. Voilà, donc les Comores, c'est le 39, le 32 en fait, là, c'est juste au-dessus de Madagascar. Sinon, je vous invite à vous lever, je vous partage encore 2 versets. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.